Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Beniada. Avec Accenture, partenaire stratégique des entreprises dans leur transformation technologique et humaine.
Olivier Andriès, directeur général de Safran, est l'invité du podcast de l'aviation. Bonjour Olivier Andriès.
Bonjour Frédéric.
Vous avez succédé à ce poste en janvier dernier à Philippe Petit-Collin. Vous reprenez les commandes de l'équipementier en pleine crise sanitaire et vous faites partie des rares groupes de l'industrie aéronautique à être resté dans le vert pendant cette crise inédite, à avoir dégagé des bénéfices. De quelle façon, Olivier Andriès ?
On a pris des mesures d'adaptation très rapidement. Dans ce genre de situation, on est confronté à une crise d'une ampleur inégalée, avec un effet brutal. Il ne faut pas tarder à prendre des mesures d'adaptation. Donc on s'est adapté vite et fort. On a réduit nos coûts drastiquement, que ce soit nos coûts, nos frais généraux, ce qu'on appelle nos frais généraux, bien sûr nos coûts de déplacement, nos dépenses courantes. On a adapté nos capacités de production à une charge qui a été significativement réduite, et notamment à partir du mois de mars 2020, ce qui nous a amené à réduire nos effectifs dans un certain nombre de pays, et puis à réduire également un certain nombre de dépenses qui n'étaient pas forcément prioritaires et qui pouvaient attendre et être décalées de quelques mois à une année ou à deux ans. Nos activités civiles de production pour les avions commerciaux ont été significativement réduites puisque Airbus et Boeing ont été amenés à réduire drastiquement leur cadence de production d'avions. Donc ça, c'est la première chose. Mais en plus de ça, vous savez, nous, dans notre activité, une part très importante est liée aux activités dites d'après-vente. Ce sont notamment les pièces de rechange et des activités de support et de service et de réparation que nous faisons directement en lien avec les compagnies aériennes. Toute cette charge, cette activité a baissé. Et donc c'est sur ces activités-là qu'on a été amené à ajuster nos effectifs dans les pays qui n'avaient pas mis en place des mesures de chômage partiel qui permettaient de protéger à court terme l'emploi. On a réduit nos effectifs aux États-Unis, au Mexique, au Maroc, en Pologne, dans un certain nombre de pays à l'international.
Et au niveau de la France ?
Alors au niveau de la France, en fait, comme le gouvernement français a mis en place des mesures de chômage partiel en fait exceptionnelles avec ce qu'on appelle l'activité partielle longue durée, ça nous a permis en fait de négocier avec l'ensemble des partenaires sociaux de Safran un accord dit de transformation d'activité, au terme duquel, d'un côté, nous nous sommes engagés à préserver les emplois et les compétences en France, et donc à ne pas procéder à des mesures de licenciement ou à des mesures de fermeture de sites en France. Et en contrepartie de cela, les partenaires sociaux ont accepté des mesures significatives de modération salariale.
Déconfinement, réouverture partielle des frontières, reprise du trafic aérien, est-ce que vous voyez enfin le bout du tunnel ?
Oui, on a des signaux qui sont encourageants. Bon, le trafic aérien en 2020, il a baissé de plus de 50%. C'est une crise sans précédent. On n'avait jamais vu ça. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on voit des signaux encourageants depuis le début de l'année de reprise du trafic dans certaines zones géographiques. La Chine, notamment, est revenue au niveau de trafic domestique d'avant-crise. Les États-Unis, avec la progression des campagnes de vaccination, on voit clairement une progression régulière du trafic aérien depuis le début de l'année. Il y a deux zones où on reste quand même dans une situation difficile, c'est l'Europe, parce que l'Europe, on est encore à moins 65, moins 70% de trafic aérien par rapport à avant. Et là, bon, nous comptons beaucoup sur la reprise estivale, sur la progression des campagnes de vaccination en Europe et la reprise estivale. Et puis l'Asie du Sud-Est et l'Inde, ils sont très impactés par la résurgence du virus là-bas. Donc des signaux encourageants, quelques incertitudes quand même sur des zones qui sont encore fortement impactées, mais globalement, nous pensons qu'il y aura une reprise progressive du trafic aérien en 2021. Puis en 2022, qui va d'abord toucher le trafic des moyens courriers. Le trafic international mettra plus de temps à revenir. Mais nous, Safran, nous sommes plutôt exposés en fait au trafic aérien domestique parce que nous sommes fortement exposés en fait aux avions moyens courriers.
Qu'est-ce qui fera que Safran sera profitable cette année ? Est-ce que c'est une activité qui a déjà repris, comme la maintenance des moteurs ?
C'est deux choses. C'est d'une part, nous avons énormément veillé à adapter notre base de coûts et à réduire notre point mort, c'est-à-dire à rester profitable même dans ce contexte qui est sans précédent. On l'a démontré en 2020, on le démontrera à nouveau en 2021. Donc on a réduit nos bases de coûts, donc ça c'était un premier élément important. Et puis effectivement, la reprise du trafic trafic aérien sur laquelle nous comptons, qui normalement va se matérialiser au deuxième semestre de l'année 2021, nous amènera des revenus de support, de services et d'après-vente qui permettront également d'améliorer la situation.
Et pour le groupe Safran, vous voyez loin devant et vous avez des projets d'avenir.
Le point important aussi dans cette période de crise, c'est de ne jamais perdre de vue la préparation de l'avenir. Et donc nous avons veillé dans ce contexte où on a été amené effectivement à réduire nos coûts, à ne pas sacrifier la préparation de l'avenir. Et la préparation de l'avenir pour nous, c'est d'abord se positionner pour être à l'avant-garde de la transition vers l'aviation décarbonée. On va y consacrer dans les années qui viennent 75% de notre effort de recherche et de technologie. Donc c'est la préparation d'un moteur de nouvelle génération avec notre partenaire américain GE, avec lequel nous avons forgé une alliance, comme vous le savez, déjà depuis plus de 40 ans. Donc on va préparer l'avenir avec notre partenaire GE pour être en mesure, à l'horizon 2035, de proposer au marché un moteur de nouvelle génération qui apportera des gains substantiels en termes de consommation de carburant et donc d'émissions de gaz carbonique. On vise 20% de gains par rapport au moteur LEAP que nous venons à peine de mettre en service il y a quelques années et qui lui-même apportait un gain de 15% par rapport aux générations précédentes.
Alors on l'a bien compris, toujours moins de carburant. En revanche, il est beaucoup trop tôt pour parler de l'avion à hydrogène en 2035.
Alors d'abord, dans l'aéronautique, 15 ans, c'est un temps très court parce que nous sommes sur des cycles très très long. Et donc pour se positionner et pour être en mesure de mettre sur le marché un appareil ou un moteur de nouvelle génération à l'horizon 2035, il faut travailler intensivement dès maintenant. Et en fait, il faut être en mesure de maturer les technologies dans les 5 années qui viennent. Donc il y a un énorme travail à faire entre l'avionneur, les motoristes, les autres systémiers et équipementiers de l'aéronautique pour maturer ces technologies dans les 5 années qui viennent. L'hydrogène, c'est une option parmi d'autres. C'est une option séduisante, mais elle représente un défi considérable. Donc l'horizon de 2035 est un challenge ambitieux, très ambitieux pour l'hydrogène. Quels sont les défis sur l'hydrogène? Il y a déjà un premier défi, c'est de veiller à ce que l'hydrogène qu'on utiliserait soit un hydrogène vert. Ça, c'est pas entre les mains des acteurs de l'aéronautique, c'est plutôt entre les mains des énergéticiens. C'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la question de l'avitaillement des aéroports. Aujourd'hui, là, l'expérience que l'on connaît dans le domaine de l'hydrogène, en l'occurrence de l'hydrogène liquide pour l'aéronautique, en fait, c'est la propulsion spatiale, c'est la fusée Ariane. Et donc, l'expérience que l'on connaît, c'est la base de Kourou. On se rend compte qu'avitailler un lanceur en hydrogène liquide, en oxygène liquide, c'est quand même quelque chose qui est d'une complexité importante. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, c'est pas tant la combustion, parce que les moteurs thermiques que nous faisons, peuvent fonctionner avec différents carburants, et ça pourrait très bien fonctionner avec de l'hydrogène. Il y a évidemment des modifications à faire dans le moteur, mais c'est pas là qu'est le challenge technique. Le challenge technique sur l'hydrogène, il est plutôt sur le stockage et la distribution. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'hydrogène liquide, à moins 253 degrés. Donc il faut des réservoirs qui puissent tenir cette température extrêmement froide pendant longtemps. Mais même à moins 253 degrés, même sous forme liquide, l'hydrogène représenterait un volume de carburant, en quelque sorte, 4 fois supérieur à ce que l'on connaît aujourd'hui avec le kérosène classique pour faire la même mission. De par ce fait, l'hydrogène n'est pas adapté aux avions long courrier. Les avions long courrier, c'est 20% des vols au niveau mondial, mais c'est 50% des émissions de gaz carbonique. Donc l'hydrogène ne sera pas une solution universelle. Par ailleurs, nous avons pris collectivement des engagements, tous les acteurs de l'aéronautique mondiale, les compagnies aériennes, les constructeurs d'avions, les motoristes, nous avons pris collectivement un engagement de réduire en valeur absolue de 50% nos émissions de gaz carbonique en 2050 par rapport à 2005. Dans un contexte où le trafic aérien augmente de 4 ou 5% par an. Ce que ça signifie, c'est qu'en fait, les avions qu'on devra mettre en service à ce moment-là devront émettre 10% seulement en émissions de gaz carbonique par rapport aux avions qui volent aujourd'hui. Donc on doit faire un gain de 90%. La technologie apportera une partie significative de ces gains. Le moteur de nouvelle génération, des économies qu'on fera au niveau de l'avion, l'allègement de tous les équipements qui sont à l'intérieur de l'avion, tout ça devrait permettre de faire une partie du chemin. Je dirais la moitié du chemin. Il reste l'autre moitié à faire. En fait, pour l'autre moitié, Il faut s'y mettre dès maintenant. On ne peut pas se permettre d'attendre 2035 ou 2040 pour commencer à réduire les émissions de gaz carbonique au niveau de la flotte mondiale qui vole aujourd'hui. Et là, l'option immédiate qui marche techniquement, ce sont les carburants durables, les biocarburants, les carburants issus de la biomasse ou du retraitement de déchets, d'huile usagée, etc. Vous l'avez vu d'ailleurs, Air France a fait une expérience avec un vol Montréal-Paris, avec effectivement des carburants issus du retraitement d'huile usagée. Donc ça, c'est une solution qui est praticable dès aujourd'hui avec les moteurs actuels qui sont tous certifiés pour fonctionner avec 50% de carburant durable.
Ce qui manque aujourd'hui, Olivier Andriès, on l'a bien compris, c'est une véritable filière de biocarburants.
Vous avez parfaitement raison, Frédéric. En fait, aujourd'hui, les carburants durables coûtent 4 fois plus cher que le kérosène. Pourquoi ça coûte plus cher que le kérosène? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'offres, suffisamment d'offres. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'offres? Parce qu'il n'y a pas de demande. Comment fait-on pour briser ce cercle vicieux au niveau des carburants durables? C'est de créer la filière, et notamment créer la filière en imposant au niveau européen, parce que c'est au niveau européen que ça a du sens, une obligation d'utiliser un certain pourcentage de carburants durables dans les opérations des avions commerciaux à un horizon donné.
Olivier Andriès, directeur général de Safran pour le podcast de l'aviation, que nous retrouverons la semaine prochaine.